Deutsche Welle. Vue d'Allemagne.
Qu'importe une poignée d'Illois, petits agriculteurs, pêcheurs à la ligne dans leurs lagons quand les intérêts stratégiques et militaires sont en jeu et que ces îles lointaines, perdues au milieu de l'océan Indien, peuvent être transformées à vil prix en une des bases les plus opérationnelles du monde.
Extrait d'un plaidoyer pour les Chagossiens par Jean-Marie Gustave Le Clézio, prix Nobel de littérature d'origine mauricienne. Guten Tag, bonjour à tous. Vous l'aurez deviné, c'est de l'archipel des Chagos dont nous allons parler cette semaine. Un archipel revendiqué par l'île Maurice, qui appartient au Royaume-Uni et qui est utilisé par l'armée américaine. Et puis le 22 juin, cela fera 70 ans que l'Union soviétique a libéré les premiers prisonniers de guerre allemands. Comment s'est fait leur rapatriement? Comment ont-ils été accueillis alors que certains d'entre eux s'étaient rendus responsables de crimes pendant la Seconde Guerre mondiale? Nous en parlons dans un instant. C'est Constance Junkotze au micro. Vous écoutez Vue d'Allemagne. C'est qui nous bise à bâtiner, n'a pas tout dit, n'a pas dit, que tout bise à batailler, comme la zone pour bombarder. Il existe un droit pour les prisonniers de guerre. À la fin d'un conflit, ils doivent être libérés et rapatriés dans leur pays d'origine. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, plus de 3 millions de militaires allemands, soldats, officiers de la Wehrmacht et de la SS, sont prisonniers de l'Union soviétique. Le 22 juillet 1946, il y a 70 ans donc, Moscou commence à les libérer. On en parle avec Emmanuel Droit, directeur adjoint du centre de recherche Marc Bloch à Berlin.
Le rapatriement, en fait, commence à partir de l'été 1946 et pour le cas des prisonniers allemands en Union soviétique, il va s'accélérer en 1949 avec la création de la RDA. Le retour est souvent évidemment difficile puisque ils reviennent dans un pays dont certaines parties ont été ravagées, détruites. Les relations familiales sont évidemment compliqué en cette période de sortie de guerre, avec des conditions matérielles très difficiles, pas d'emploi au retour.
Quand vous dites qu'il y a plus de 3 millions de prisonniers de guerre qui ont été rapatriés, c'est quand même une masse énorme d'hommes. Et dans une Europe qui avait tellement changé, ça devait être un effort logistique énorme de ramener ces hommes. Comment ça s'est passé logistiquement, concrètement ?
Sur les 3 millions de soldats de la Wehrmacht qui étaient détenus comme prisonniers de guerre par l'Union soviétique à la fin de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup sont morts dans les camps. En termes de logistique, évidemment, c'est très compliqué parce que, vous l'avez rappelé, la géographie, les frontières de l'Allemagne ne sont plus celles de 1937, mais celles de 1945, avec toute une série de territoires qui sont passés sous domination polonaise, notamment pour la Prusse orientale. Et ces rapatriements se font essentiellement par convoi ferroviaire, avec tous les problèmes logistiques que ça peut poser. Les quatre puissances membres de l'alliance anti-hitlérienne n'avaient pas les moyens logistiques pour gérer cette masse de population qui venait s'ajouter en plus à la masse des réfugiés allemands, des civils non militaires.
Est-ce que ces hommes militaires qui en partie aussi s'étaient rendus responsables de crimes sur le front de l'Est, est-ce que ces hommes ont pu être jugés par la suite en Allemagne ?
Si on prend l'exemple de l'Allemagne de l'Ouest, lorsque ces prisonniers étaient rapatriés, ils passaient dans un premier temps par des camps et on essayait d'évaluer leur degré de culpabilité ou d'implication, mais la plupart du temps, ils n'ont pas été poursuivis ou condamnés. Libérés de leur obligation militaire, ils sont retournés à la vie civile. On a réintégré dans toute une série d'administrations et même au niveau de la future Bundeswehr, de l'armée ouest-allemande qui va renaître à partir du milieu des années 50, on a recyclé toute une série de criminels de guerre et d'anciens nazis, plus ou moins impliqués dans des actes criminels sur le front de l'Est.
Est-ce que ça s'est passé différemment à l'Est, en ex-RDA ?
On peut dire que la RFA s'est reconstruite et est devenue une démocratie exemplaire, c'est un peu le paradoxe, avec d'anciens nazis, d'anciens criminels de guerre. Le cas de la RDA est un peu plus compliqué, parce que c'est vrai que dans un certain nombre d'administrations, ce sont les communistes qui ont reconstruit ces appareils et là l'épuration fut plus importante, ce qui explique aussi qu'une partie de ces soldats soldats ou de ces personnes rapatriées dans un premier temps en Allemagne de l'Est ont fui la RDA à la fin des années 40 et au début des années 50 parce qu'ils ne pouvaient pas trouver leur place dans la nouvelle société est-allemande. Et ils font partie de ces millions de personnes qui ont fui la RDA et ont refait leur vie en RFA.
Vous écoutez Vue d'Allemagne, nous nous posons en plein milieu de l'océan Indien, à Port-Louis, la capitale de l'île Maurice. C'est ici qu'il y a 50 ans exactement, les expulsés de Chagos trouvent refuge. L'archipel de Chagos, composé de 55 îles, est administré depuis 1965 par le Royaume-Uni. Londres a délogé les Chagossiens pour pouvoir transformer à son aise la plus grande île de l'archipel en base militaire. Depuis cette époque, la base de Diego Garcia est opérationnelle et louée par Londres aux États-Unis. Sauf que les Chagossiens ne l'entendent pas de la même oreille. Depuis près de 20 ans, ils luttent devant les tribunaux contre le gouvernement britannique pour récupérer leurs terres. Parallèlement, le gouvernement de l'île Maurice revendique également les Chagos, archipel sur lequel il exerçait sa souveraineté avant que les Britanniques ne mettent la main dessus. Dernier rebondissement dans cette affaire qui oppose David contre Goliath, l'ultimatum lancé par le Premier ministre mauricien et qui dit en substance « Si Londres ne rend pas l'archipel, Port-Louis portera l'affaire devant la justice internationale. Londres a répondu et notre correspondant à Port-Louis a suivi tout cela de très près. Voici son reportage. »
C'est à la lumière d'une question parlementaire posée par le leader de l'opposition Paul Béranger que le Premier ministre, Sir Nirod Jagnat, a révélé à la Chambre avoir demandé à la Grande-Bretagne de lui préciser avant le 30 juin 2016 la date à laquelle elle compte rendre l'archipel de Chagos à la souveraineté mauricienne. Dans le cas contraire, Maurice compte saisir la Cour internationale de justice de la Haye et l'Assemblée générale des Nations unies pour obtenir réparation. Le Premier ministre.
J'ai fait une requête auprès des Britanniques pour qu'ils nous rendent les Chagos à une date précise. Je leur ai demandé une réponse avant fin juin 2016. J'ai également clarifié que Maurice n'avait aucune objection à ce que les États-Unis continuent d'utiliser Diego Garcia comme base militaire. Je leur ai même dit que l'île Maurice était prête à accorder aux États-Unis un bail de 60 ans pour Diego Garcia en échange du versement d'un loyer. To the United States in respect of Diego
Garcia, subject to the payment of the rent. La réplique de la Grande-Bretagne et des États-Unis, les deux puissances qui occupent cet archipel depuis 5 décennies, ne s'est pas fait attendre. En effet, ces deux pays ont, dans un communiqué conjoint, menacé Maurice. En substance, si le gouvernement continue son combat, les relations bilatérales n'en sortiront pas indemnes. Mais Sir Nirod Jagnat ne compte pas céder.
It is very clear that the Britishers have no intention.
Il est très clair que les Britanniques n'ont aucune intention de nous rendre les Chagos. Nous devons donc prendre toutes les mesures nécessaires car nous luttons pour une cause légitime. Cela ne devrait pas affecter nos relations bilatérales avec la Grande-Bretagne. Nous n'allons pas nous courber devant ces gens qui prétendent soutenir la justice, les droits humains, l'état de droit, mais qui se comportent ici de manière dictatoriale. S'ils pensent que la raison du plus fort est toujours la meilleure, qu'ils le pensent, mais je ne capitulerai pas.
Their philosophy is might is right. Therefore, I am not going to capitulate myself.
Docteur en géopolitique, Shafiq Osman trouve que la décision du Premier ministre mauricien est très courageuse.
Je crois que c'est une démarche très intéressante et très louable. Les États-Unis n'ont jamais donné suite aux appels de Maurice, nous référant toujours au Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni a toujours joué aux abonnés absents. On n'a jamais eu de discussion franche, nette et directe avec le Royaume-Uni sur la question des Chagos. Donc, à un moment donné, il faut trancher, il faut prendre des décisions. Je pense qu'on a épuisé toutes les options possibles, c'est-à-dire discussion, négociation, solution à l'amiable, ou l'arrangement plus précisément entre les États-Unis et le Royaume-Uni a été déjà étendu de 20 ans, après les 50 premières années. Donc c'était le moment pour Maurice de faire part non seulement de ses intentions, mais de ses actions. Et Maurice a toujours voulu être partie prenante de ce renouvellement de l'accord entre les États-Unis et la Grande-Bretagne sur les Chagos. Effectivement, cela aurait peut-être dû être fait déjà depuis des années. Donc aujourd'hui, le Premier ministre, qui a lui-même 86 ans, donc qui est à la fin de sa carrière politique pratiquement, a décidé de jouer gros sur la scène internationale, a décidé donc de contrer le Royaume-Uni sur cette question aux Nations Unies.
Et que pensent les Sagossiens de tout cela? Sur les 2000 qui ont été chassés de leurs îles et déportés vers Maurice ou aux Seychelles au début des années 70, il ne reste que 400 natifs. Leur lutte pour rentrer chez eux aura été longue, difficile, mais aussi inégale face à la Grande-Bretagne et aux États-Unis. Fernand Mandarin, leader du comité social sagossien, garde espoir.
Maurice a un droit pour aller de l'avant avec son...
Maurice a le droit de revendiquer sa souveraineté sur les Chagos, mais je pense que c'est trop tard. Si les autorités avaient battu le fer pendant qu'il était chaud, on n'en serait pas là aujourd'hui. À l'époque, la douleur des Chagossiens était forte lorsqu'ils criaient dans la rue. Rendez-nous Diego. Le gouvernement mauricien n'aurait pas dû accepter que les Anglais nous débarquent à Maurice et louent nos terres aux Américains. Ils auraient dû nous laisser vivre sur nos îles. Il y a assez de place pour nous et pour les militaires.
Comme tout peuple, Mauriciens et Sagossiens ont droit à une existence indépendante, en tant que peuple, avec leur histoire, une identité fondée sur un patrimoine culturel commun. Mais de fait, l'archipel reste pour le moment un territoire occupé. L'ultimatum du Premier ministre étant passé, on attend désormais la suite des événements.
Le combat entre Londres, Washington et Port-Louis, compté par Nassim Makbarali, un reportage à retrouver sur notre site internet dw.com/français. Bonne fin de semaine à tous, à la prochaine et tchuss!